C'est l'histoire.
L'histoire.
Avec un grand I.
Quelle histoire ?
Chaque semaine, la fine équipe de l'histoire avec un grand I étudie avec vous un nouvel événement historique.
Fin de l'été, début de l'automne, une période pendant laquelle on voit se succéder des salons du vin partout en France. Véritable sport national, ces événements attirent Français et Françaises avec un seul objectif, déguster puis repartir avec une caisse ou deux, histoire de refaire sa cave qui a bien souffert de l'été. Alors regardons la pratique de plus près aujourd'hui et remontons le temps jusqu'au premier salon du vin. Il eut lieu quelque part pendant le règne de l'Empire romain et l'histoire avec un grand I, en a gardé une trace spéciale. C'est lors de ce salon qu'on enregistra la plus longue gueule de bois à jamais répertoriée. Pour m'aider aujourd'hui, la fabuleuse équipe d'historiens que vous connaissez bien à présent. Bonjour Alexandre Bellin.
Bien le bonjour.
Bonjour Julien Marel.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour Thierry Lafleur.
Bonjour.
L'histoire avec un grand I sur Prune.
Alors, première question pour vous messieurs, peut-on poser le cadre de l'histoire justement? Qui proposa ce premier salon du vin et dans quel but?
Alors d'abord, posons le cadre du studio dans lequel on enregistre, parce que Guillaume nous a fourni une petite caisse de bouteilles de vin pour l'occasion.
Merci à vous Guillaume,
donc,
bah, c'est gentil.
On va pouvoir déguster tout au long de l'émission sur cette thématique. Donc,
Non, puis il y a des grands crus là.
Il y a le beau geste.
Le petit pinot noir.
Merci Guillaume,
c'est bien normal. Alors oui, ce salon du vin, première édition, quelque part au moment de l'Empire romain.
Oui.
Par qui et pourquoi ?
62 avant Jésus-Christ, le premier salon du vin, on le sait, sous l'impulsion tout simplement de Jules César, grand amateur de vin, une passion pour l'œnologie. Pour les belles amphores.
Les belles amphores à l'époque, tout à fait.
Qui se déroule dans la ville de Rome. Jules César invite ses concitoyens à venir goûter des amphores et puis aux producteurs de montrer ce dont ils sont capables.
Très bien. Donc on a là un événement à portée du public. Le but, c'est de venir goûter du vin. Quelque chose que le peuple romain de l'époque ne faisait pas forcément. C'était quelque chose qui était très réservé aux nobles.
Oui, tout à fait. Et là, on est très bon celui-là. On est dans le Colisée, dans le Grand Colisée, justement. Donc, place forte, finalement, du peuple à l'époque. C'est vraiment l'endroit où le peuple se rassemble pour les Jeux. Le Salon du Vin est organisé à l'intérieur de ce Colisée et est ouvert à tous et à toutes. Et donc, en effet, c'est les producteurs eux-mêmes qui vendent leur vin directement à qui veut bien l'acheter. Et cette année-là, Jules César fait brader les prix totalement. Donc, c'est-à-dire qu'il va payer lui-même les producteurs, il va les défrayer du trajet, il va leur donner une certaine somme d'argent pour que ceux-ci justement bradent les prix de leur vin pour pouvoir le vendre à qui le veut.
Alors évidemment là ce n'est pas, vous voyez les salons du vin d'aujourd'hui, on trempe les lèvres, on se gargarise un peu la bouche et puis on avale une toute petite gorgée, voire on crache, Là, ça enquillait de l'amphore.
Exactement.
Une fois que l'amphore et le tonneau étaient ouverts, les gens n'étaient pas là pour goûter, ils étaient là pour boire.
On va en parler, mais effectivement, les gens ne connaissaient pas l'alcool et ses effets du lendemain, parce qu'effectivement, on n'est pas habitué à boire. Et donc, on parle de la plus grande gueule de bois de l'histoire. On va en revenir avec le personnage de Petrus Mitron, mais c'est effectivement quelqu'un qui a... qu'on a souffert. Moi, je tiens à donner un peu de contexte là-dessus. C'est aussi, c'est la première fois que le vin est accessible aux masses, et donc on peut en acheter pas très cher. À l'époque, toutes les maisons étaient construites avec des caves, et les caves n'avaient pas grand usage. À l'époque, on y stockait un peu de nourriture, un peu de grains, mais c'est la première fois où les gens se disent attendez, j'ai un espace inutilisé dans ma maison, j'ai des amphores à bon marché grâce à Jules César, je vais pouvoir constituer ma collection d'amphores dans ma cave.
Donc chacun repart avec ses caisses d'amphores pour les stocker dans sa cave, et donc là il y a vraiment une première, ça devient la culture en fait
ça vient de là.
Ouais, ok, très bien. Avant d'aller dans le détail sur ce fameux personnage, est-ce qu'on peut décrire un peu qui vient présenter ces vins, de quel vin on parle, et combien de personnes viennent consommer tout ça ?
On a vraiment des producteurs de tout l'Empire romain. Ce premier salon des vins, donc organisé dans le Colisée, durera tout ce qu'on pourrait appeler un week-end aujourd'hui, c'est-à-dire c'était deux jours non ouvrés où justement tout le monde pouvait venir, c'est-à-dire des jours où les gens ne travaillaient pas beaucoup. où tout le monde du coup pouvait venir déguster ces vins, donc vraiment du plus pauvre citoyen de Rome jusqu'au plus riche marchand reculé dans l'Empire romain.
Et c'est aussi à l'époque que bah, ça se passe dans le Colisée, et du pain et des vins, finalement ça vient de là. Parce qu'avant, les gens demandaient juste du pain, du vin et des jeux. Avant, c'était du pain et des jeux. Et puis lorsqu'en 62 avant Jésus-Christ, la foule, la masse goûte au vin, ça devient vraiment un élément essentiel et central de la culture romaine.
Très bien. Alors, comment ça se passe cet événement? Quand est-ce que les portes s'ouvrent?
Les portes s'ouvrent au petit matin. Donc vraiment, ça avait été annoncé par Jules César, les portes s'ouvriront à l'aube. Elles s'ouvrent en effet à l'aube. Alexandre en parlait tout à l'heure, donc on commence à avoir les prémices de ce que sont les salons du vin aujourd'hui, c'est-à-dire des gens un peu timides qui découvrent, qui se disent que de toute façon ils n'ont pas les moyens. Et en fait, au fur et à mesure de la journée, vers l'heure de midi, lorsque le soleil est au zénith, le bruit court qu'en fait les vins sont très peu chers.
Et que c'est bon, que le vin c'est bon.
Et vraiment le bruit commence à courir et le vin commence à échauffer les esprits aussi un petit peu. Donc voilà, il fait très très chaud ce jour-là. Et du coup, c'est à ce moment-là, donc début d'après-midi, où en fait les producteurs sont pris d'assaut.
Et puis il faut vous imaginer, le bruit, enfin, au début de la journée, bon, il a fait de la pub, Jules César, pour son salon du vin, mais tout le monde n'est pas venu. Quand le bruit court dans le Colisée, mais aussi à l'extérieur du Colisée, que les vins ne sont pas chers et que c'est très bon, tout Rome rentre dans le Colisée, mais vraiment tout Rome. On pense que dans le Colisée, il y a eu au moins près d'un million de personnes en même temps.
Qui est une des concentrations de personnes les plus importantes jamais enregistrées. Et c'est là aussi où, voilà, donc une grosse foule, une effervescence, et puis les Romains adorent jouer. On l'a dit, hein, c'est que le pain, le vin et les jeux, culture centrale. Et c'est là où, dans le Colisée, forcément, les gens pensent à faire des jeux, et on invente les premiers jeux, enfin, pas les premiers jeux à boire, parce qu'ils prédatent, mais on invente des jeux à boire, et donc
qu'ils rentrent dans la culture populaire, en fait.
Ouais, les Romains jouent à des jeux pour créer ce moment convivial autour de la dégustation de vin.
Très bien. Est-ce qu'on peut détailler ces jeux-là, et puis après on introduira peut-être le personnage central
de
la journée et du week-end?
Oui, voilà. Donc en fait, ces jeux-là, en fait, ils se déroulent dans les gradins du Colisée. C'est-à-dire que sur la place centrale du Colisée, dans le sable, il n'y a absolument rien. C'est quand même, voilà, il ne faut pas dégrader cet espace-là qui est réservé au combat des gladiateurs. Et en fait, donc tout se passe dans les gradins. Et finalement, les jeux à boire, ça commence par je ne sais pas si vous connaissez, lorsqu'on fait du badminton au lycée, le montée-descente. C'est-à-dire vous perdez un match, vous descendez, vous gagnez un match, vous montez d'un terrain jusqu'au terrain numéro 1. Et bien là, c'était pareil avec toutes les marches du Colisée. C'est-à-dire quand vous faisiez des concours de cul sec, si vous perdiez, vous descendiez d'une marche, si vous gagniez, vous montiez d'une marche. Et le but, du coup, était d'arriver tout en haut des marches du Colisée. Et donc, il y avait à peu près une vingtaine de ligues classées dans le Colisée de montée-descente.
Donc, les gros buveurs étaient en haut et certains dégringolaient tant ils étaient ivres de vin.
D'où vient l'expression « avoir une bonne descente ».
Avoir une bonne descente, oui. C'est qu'on avait tellement, on était le plus gros buveur de sa ligue, et donc on faisait une descente sur les fesses, à rouler sur...
Voilà, parce qu'à un moment, il ne pouvait plus. Et jusqu'au moment, justement, donc là, c'était une soirée, ça a duré toute la nuit, jusque justement, finalement, l'existence de ce fameux Petrus Mitron, qui va descendre, donc qui était arrivé tout en haut, qui était vraiment... absolument aviné, rougeau, comme le disent les écrits. Et en fait, il va descendre, et en fait, il va perdre à la dernière marche, et par réflexe, ivre qu'il est, il continue de descendre et se retrouve dans la fosse, au centre du Colisée.
Donc là, ça crée un incident semi-diplomatique.
Tout le monde se tait.
Voilà, tout le monde se tait, la fête s'arrête.
Le million de personnes dans le Colisée devient silencieux d'un coup, alors qu'on était au beau milieu de l'effervescence. Petrus Mitron se roule dans le sable, aviné qu'il est, et se relève et constate avec ses grands yeux effarés que tout le monde s'est tué et les yeux sont tous braqués sur lui, il est au centre du Colisée.
Tout le monde se tourne vers Jules César, qui est dans la place centrale du Colisée, et Jules César dit « Faites entrer les lions.
» Et ben oui, coup dur pour Petrus Mitron, c'est...
Jules César qui, à ce moment-là, est complètement ivre.
Il est complètement ivre.
Tout le monde applaudit, même Petrus Mitron, qui n'a pas encore réalisé, ivre qu'il est. Tout le monde applaudit la décision de Jules César. Petrus Mitron saute de joie jusqu'à ce qu'il se rende compte que c'est lui qui va devoir affronter l'animal.
En fait, Jules César, il avait dit ça par réflexe.
C'était un réflexe.
Pas tellement conscient de la situation.
Totalement un réflexe.
Il voit quelqu'un dans l'arène, il dit faites entrer les lions. Quoi.
Alors, il s'en rend compte. Il y a eu des écrits où il en parle après Jules César, et notamment dans ses mémoires, qui s'appelle Moi, Grand Jules. Il s'en est rendu compte, il était ivre sur le moment, mais au moment où il dit faites entrer les lions, il se dit mince, c'est mon salon du vin, ça n'a rien à voir avec des combats de gladiateurs, mais pour ne pas perdre la face, il fait comme si, poker face, il fait comme si c'était vraiment ce qu'il avait voulu faire.
C'était alors, prévu.
Bon, l'histoire, l'histoire se termine bien, mais les portiers écoutant Jules César ouvrent la porte, les lions rentrent dans l'arène, 8 lions. Massif. Heureusement pour Petrus Mitron, les lions sont avinés.
Également. En fait, les gardes qui eux étaient ivres, s'étaient amusés à faire picoler les animaux du cirque. Et donc les lions rentrent à l'intérieur et on voit directement qu'ils sont ivres, ivres malades quoi.
Donc on a, si je résume la situation, dans l'arène, 9 individus ivres. 8 lions et un humain.
Et un Petrus Mitron.
Qui était, bon, alors, qui était un gaillard fort, hein, qui devait tenir la boisson quand même. Il parvient. Alors les lions se battent un peu entre eux. Il parvient à terrasser un lion en s'asseyant dessus. Et il sort victorieux de l'arène. Et là, tout le monde, c'est la liesse, tout le monde applaudit. Petrus Mitron, grand gaillard de la cité, vient de terrasser 8 lions à lui tout seul en étant complètement ivre. Et donc, Jules César le fait monter dans son espace à lui pour le faire saluer par la foule. Et là commence une grande soirée de fête pour Petrus Mitron.
Voilà. Donc c'est presque la deuxième soirée, après une première soirée qui était déjà très très fameuse. On n'en dit pas plus, on garde le suspense, c'est l'heure de la pause musicale. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs that jingled too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Ooh, summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer. Et nous revoilà dans l'histoire avec un grand I, c'était Summer Wine de Nancy Sinatra et Lee Hazelwood. On venait de se quitter sur la narration, on va dire, de la première partie de ce week-end qui voit le sacre de Petrus Mitron, qui a réussi à vaincre contre toute attente 8 lions dans l'arène. Avec les moyens du bord.
Survivre.
Survivre face à 8 lions de l'arène du Colisée. S'ensuit un moment de liesse.
C'est ça, donc on parlera, hein, parce que c'est un peu le sujet de notre émission, de la plus grande gueule de bois, enfin de la première grosse gueule de bois. Avant la première grosse gueule de bois, il vient évidemment la première grosse soirée. Donc, oui. Vraiment, voilà, donc cette grosse soirée qui se passe exclusivement dans le Colisée. Les rues de Rome sont quasiment désertes. Tout le monde est attroupé, soit à côté, soit dans le Colisée, pour ce salon du vin et cette soirée mémorable.
Il est 17h30 lorsque Jules César fait monter Petrus Mitron, qui était un simple boulanger de Rome, dans son espace à lui, aux yeux de tous. Et Jules César le félicite, mais un peu à demi-teinte, désolé ce qui s'est passé. C'était...
Et puis, si je peux me permettre, je disais tout à l'heure que Jules César s'était rendu compte un peu de son erreur au moment où il fait descendre Petrus Mitron dans la fosse aux lions. Là, il a continué à boire. Pendant que Petrus se battait avec les lions, Jules César, à ce moment-là de la soirée, est complètement cuit.
Ah voilà. Le combat contre les lions a duré 3 bonnes heures. Hein. Voilà, à partir du moment où les lions sont rentrés et où les lions étaient KO, il y a eu 3 bonnes heures où en fait les gens ont continué de picoler en regardant le spectacle.
Et donc là, Jules César fait monter Petrus Mitron et commence à lancer, à jouer avec la foule. En fait, il est saoul, il lance des hola, il fait chanter la foule. Et tout le monde y va de son cri pour féliciter Petrus Mitron qui lui n'a qu'une idée en tête, continuer à boire.
Oui, parce qu'il devient vraiment le héros de cette soirée et il voit tout le monde qui l'acclame et donc il est au plus haut de sa forme à ce moment-là.
Il est au plus haut de sa forme et aussi au plus haut de son statut car à ce moment-là, Jules César donc fait scander la foule en liesse en l'honneur de Petrus Mitron. Complètement chauffé par ce colisée bouillant et par l'alcool, il lui demande de s'agenouiller et il le fait général en chef des armées du Nord.
Et donc Petrus Mitron reçoit le costume et le grade qui représente ce statut.
Dux Bellorum.
Et du coup, il a accès à toute la soirée des hauts placés, des hauts gradés, des personnes importantes de Rome, qui se passe dans une partie privée du Colisée. Et donc, il va faire la fête là-bas. Et là, il s'en passe des choses.
Là, le moment le plus cocasse pour moi, qui sera écrit, qui sera retracé, c'est le moment où il arrive dans la chambre des sénateurs. Les sénateurs qui, eux, avaient décidé de ne pas s'abaisser. Une telle débauche en fait, et donc il arrive dans la salle des sénateurs, un salon somme toute très calme où tout le monde est sobre. Petrus Mitron arrive avec son tout nouveau costume de Dux Bellorum, complètement ivre, et il s'en passe des choses très cocasses, des scènes avec ses sénateurs qui sont totalement sobres.
Notamment en arrivant, Petrus Mitron se prend les pieds dans la toge d'un des sénateurs et le dévêtit totalement en tombant par terre, on se retrouve avec un sénateur tout nu, Vinicius Templut,
voilà, qui s'enfuira en courant et qui sera pris par Jules César pour un sénateur ivre finalement. Il pensait qu'il s'était mis tout nu exprès, alors que le sénateur cherchait juste à se cacher. Et c'est à ce moment-là où à peu près un quart des personnes dans le Colisée s'est également dévêti et un quart du Colisée s'est retrouvé tout nu.
Et bon alors il a pris des décisions cocasses parce qu'il y a les généraux aussi qui sont là et en tant que commandant des armées du Nord, il teste un peu son pouvoir, il demande aux généraux diverses choses et notamment il demande à faire retirer toutes les troupes du Nord pour qu'elles viennent faire la fête avec lui à Rome et donc les troupes se mettent en route depuis le Nord et brièvement à ce moment-là en moins 62 l'Empire romain a perdu a perdu le nord de son territoire, c'est parce que l'armée suisse en a profité.
Exactement.
Et enfin, ça, ils s'en rendent compte qu'une semaine plus tard, ah, quand les armées du nord débarquent après la soirée, en leur disant on a reçu le pigeon.
Où est la bamboche ?
On vient faire la fête.
On vient faire la fête, a priori. Mais sauf que tout le monde est complètement en gueule de bois.
Une semaine après encore, on en parlera après avec Petrus Mitron.
Donc, on a parlé des sénateurs, on a parlé des généraux. Quel autre personnage est-ce qu'il va croiser sur son chemin, Petrus ?
Petrus Mitron, après, il va s'octroyer un bain de foule. Hein. Après, il va retourner dans le Colisée. D'ailleurs, après une petite pause, parce qu'il disparaît un peu des radars pendant une à deux heures, il revient à la dernière marche et il réussira à remonter tout en haut.
Ça
au jeu
fort,
du
parce que le jeu continuait.
Ouais, voilà. Donc, il revient donc, vers 2h du matin et il réussit justement à monter jusqu'à la dernière marche. Alors à 2h du matin, il y a très peu de monde, mais il y a encore des gens qui font la fête.
Il y a pas moins de 5 ligues différentes et oui. il a réussi à monter en haut de 4 d'entre elles et il sera battu à la deuxième marche pour la cinquième, mais quand même il fait une performance en beuverie. Et là, il est 2h du matin. On estime que Petrus Mitron, à ce moment-là, a consommé pas moins de 51 amphores.
À lui tout seul.
Donc on est sur une performance vraiment de haut niveau. C'est pas pour rien que...
Une amphore, ça a une contenance de 2 litres 2. Hein. C'est pas une des petites bouteilles qu'on a actuellement. C'est pour remplacer le contexte.
C'est beaucoup. Donc là, il est 2h du matin. On a le fameux Petrus qui gravit les marches de ce Colisée. Un événement si important dans l'histoire qu'on on en a fait des films, bien entendu, et je vous propose d'en écouter.
Petrus, 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 Petrion, Petrus, Petron, Petrus, Petrus, Petron.
Églou, 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 églou.
Alors qui veut venir me défier?
Ouais, Petrus!
Je suis au sommet du monde!
Églou, 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 Petrus!
Jules! Je te défie!
Toi, Petrus, t'es là!
Je te défie!
Petrus, t'es mon meilleur général des armées!
T'aimes,
moi,
Jules?
Non, c'est moi qui t'aime!
Moi, câlin! Moi, câlin! Regardez!
C'est mon meilleur!
Le Dux Bellorum et l'Imperator, ils se serrent dans les bras!
C'est mon meilleur copain, Petrus.
T'aimes, Jules. Bois avec moi. À la santé.
À la santé.
Jules Petrus, églou, églou, églou,
églou, églou, églou, églou, églou, églou, églou, églou.
Parle, va. Jules, parle à la foule.
Choqué.
Vas-y, dis.
Peuple de Rome. Merci d'être venu à mon exposition du vin. Je vous aime tous.
Jules César.
Je déclare Rome et tous ses habitants, vous êtes tous maintenant les rois de Rome. Nous sommes tous au même niveau. Tous dans l'amour.
Ouais, l'amour, 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 l'amour.
Pour que tout.
Donc on a là... Enfin vraiment, je trouve, avec le point de vue de l'histoire qui s'est déroulée, un résumé parfait de cette soirée, de la bonne ambiance qui s'y déroule, du taux d'alcoolémie excessif de tout le monde,
oui,
et de décisions irrévocables qui sont prises par les parties les plus puissantes.
Oui, parce que c'est vrai que cette histoire est rigolote, mais néanmoins, donc voilà, pour revenir à quelque chose de sérieux, à quelque chose d'historique.
Là, c'était quand même Astérix, Obélix, oui, et la gueule de bois de César.
Oui, voilà, c'était le film.
Mais ça, c'est pas loin de s'être passé comme ça tout de même.
Mais alors, les sénateurs sobres prennent acte de la décision de Jules César, et dès ce matin-là, tout le monde dans la foule, le million de personnes, est roi de Rome.
Ah oui, parce
et
que...
alors, on va aborder la gueule de bois.
Et puis, je dis que c'est Astérix Obélix, mais c'est vrai ce qui s'est passé dans cette partie. Ils se sont penchés sur...
Mais quand je disais de revenir à quelque chose de plus sérieux, c'est qu'en effet, on est déjà un peu sur le déclin, sur la fin de l'Empire romain tel qu'il a existé, qui avait vraiment mainmise sur toute l'Europe. Et en fait, cet événement-là, finalement, cette débauche nous fait sourire, parce que c'est quand même un événement marquant de l'histoire, mais c'est quand même un des événements qui va marquer la fin de l'Empire romain tel quel.
Bien sûr.
Le lendemain matin, tout le monde se réveille aux alentours de 19h dans les rues de Rome.
Dans les rues de Rome et dans le Colisée.
Dans le Colisée,
beaucoup de gens ont dormi là-bas. Ont dormi au Colisée et les gens sont réveillés, ça il faut le noter, c'est assez cocasse. les gens sont réveillés par Petrus Mitron qui se vide, qui vomit au milieu de l'arène. Il est redescendu dans l'arène, il a veillé jusqu'à 5h du matin. Et les gens dans le Colisée se réveillent justement par les bruits de vomi de Petrus Mitron.
C'est là que c'est formidable, c'est que les lions se réveillent également et Petrus Mitron arrive à les terrasser malgré son état. Bon, alors les lions étaient encore avinés aussi, mais bon, enfin encore en gueule de bois, mais...
Un lion, ça met beaucoup plus de temps qu'un humain dessoulé.
Oui, c'est vrai.
C'est une vraie information.
Oui, c'est une vraie... Oui, je ne sais pas si vous le saviez, mais tous les animaux, en fait, on dessoule pas de la même manière.
Non, c'est vrai.
Et les lions sont vraiment
parmi les espèces les plus longues à dessouler. Ouais. Ouais.
C'est vrai.
Et donc Petrus Mitron ressort de l'arène. S'ensuira une gueule de bois de un mois pour Petrus Mitron. Mais un mois au cours duquel, n'ayant pas refait surface, il est toujours commandant en chef des armées du Nord.
C'est vrai.
Il ne prendra pas de décision supplémentaire, mais il conservera ce stade, ce grade pendant un mois. Mais la gueule de bois de Jules César est terrible, parce que lui a quand même fait tout le monde roi de Rome, et ça a des conséquences.
C'est exactement ça. On dit qu'il faudra une semaine pour remettre Rome en état. Une semaine déjà, c'est le temps qu'il faudra rien que pour nettoyer le Colisée qui sera dans un état déplorable. Vous pensez bien, le vomi de Petrus Mitron à 7h du matin en a déclenché d'autres. Tous les gens qui étaient là, qui dormaient, qui se sont réveillés. Voilà, c'est vraiment le Colisée dans un état déplorable. Il faudra une semaine pour le nettoyer entièrement et pour nettoyer également les rues de Rome, en refaire une place acceptable. Et ce sera une semaine de gueule de bois, vraiment à l'état pur pour Jules César, qui devra répondre de ses actes devant le Sénat.
Alors le Sénat met quand même quelques heures à destituer tous les habitants de Rome de leur statut de roi de Rome.
Ça prend un peu de temps d'aller voir chacun, un par un.
Voilà.
Sachant qu'il y a une
procédure.
Il y a une procédure pour ça, donc il faut vraiment aller chez chaque personne, toquer à leur porte, mettre une main sur leur épaule... Et
réciter le
texte. Leur mettre d'abord les couronner, puis les découronner. Oui. Et c'est très très long.
Donc ça prendra du temps. Et puis au bout d'une semaine, effectivement, les armées du Nord, on en a parlé, arrivent à Rome.
On ne les attendait pas.
Ah non, tout le monde avait oublié que Petrus Mitron avait donné cet ordre. Et c'est pas moins d'un million et demi de soldats qui arrivent à Rome. Prêts à faire la fête en plus, parce qu'ils avaient tous ramené leurs amphores. Ils avaient entendu parler de cette fête auquel ils étaient invités. Et donc on les envoie retourner chez eux vexés, la plupart quitteront l'armée et déserteront.
Voilà, et Petrus Mitron à ce moment-là sera destitué de son poste de Dux Bellorum. En fait, personne ne se souvenait de cet ordre. En fait, tous les gens qui étaient présents avec Petrus Mitron au moment où il a envoyé ce pigeon ne se souvenaient pas le lendemain, parce qu'ils étaient absolument ivres. Personne ne se souvenait de cet ordre, et finalement, lorsqu'on lit le papier très mal écrit, cela dit, on se rend compte qu'en fait, oui, c'est bien Petrus Mitron qui a donné cet ordre et qui a finalement fait perdre du terrain à l'Empire romain.
Et c'est pour ça qu'on pense que c'est en tout cas une des raisons pour laquelle Hannibal a pu traverser les Alpes par la suite. C'est parce que l'armée du Nord était un peu défaite à cette époque. Beaucoup de personnes avaient quitté l'armée, et donc les défenses de l'Empire étaient frêles dans le nord du pays.
Le premier salon du vin qui aura eu de l'importance et un impact très négatif pour l'Empire romain. Et vous, messieurs, notre petit salon du vin, ici, pendant cette émission, qu'en avez-vous pensé ?
Un impact très positif.
Oui, très positif.
On s'est bien régalé.
Voilà, on s'est bien régalé, et avec modération. Voilà, je tiens à le rappeler, donc je ne pense pas qu'il y aura de conséquences négatives.
Il n'y aura pas de Petrus Mitron parmi nous.
C'est vrai qu'avant l'émission, on se demandait si Alexandre allait réussir à tenir jusqu'à la fin de l'émission.
Je vous avoue que
ça commence à chauffer.
Ça peut à chauffer.
Mais on a eu notre petit colisée à nous avec Alexandre lors de nos dernières fêtes.
Oui, enfin, on va peut-être pas parler à la radio, on va peut-être couper ici, Guillaume, je pense.
Ce sera pour une autre émission. Merci à vous pour cette très belle émission.
Merci beaucoup, Guillaume.
Merci à celles et ceux qui nous ont écoutés. C'était l'Histoire avec un grand I pour un épisode aujourd'hui consacré au premier salon du vin et à la plus longue gueule de bois répertoriée qui en a suivi, celle de Petrus Mitron. Vous retrouvez l'émission sur prune.net, toutes les plateformes d'écoute. Vous nous retrouvez également sur Instagram, compte l'histoire avec un grand i, où vous pouvez nous envoyer de jolis messages et même des suggestions d'émissions. Rendez-vous la semaine prochaine, nous étudierons un nouveau fait historique.
C'était l'Histoire avec un grand i. Chaque semaine, retrouvez la fine équipe de l'Histoire avec un grand i afin de revisiter en improvisation totale un fait historique qui n'a jamais eu lieu.